cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Bonjour.
Alors The Vox, votre album qui est sorti en début d'année, ressort avec quelques inédits. Alors comment vous n'avez pas podcasté à l'époque de sa sortie, c'était l'occasion. C'est un album, on pourrait dire, d'un côté un petit peu à part parce qu'il était assez représentatif de multiples facettes de votre art pianistique, mais en même temps il y avait déjà pas mal de traces d'ADN, de votre ADN déjà
sur Trippin, en tout cas,
sur Trippin, ouais, et un peu disséminé partout. Il y a des morceaux effectivement qu'on peut, j'allais dire, étiqueter presque de jazz plutôt, enfin jazz classique, des choses qui sont plus proches de la soul avec chanté, puisque il y a Crystal Warren qui chante sur plusieurs morceaux. Certains titres sont proches, même sont carrément bien ancrés dans le funk. Mmh. On parlera, je pense, de toutes ces diverses influences. Quand vous avez construit ce disque, ce projet, comment ça s'est fait ? Est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez ? Ou finalement, tout s'est assemblé progressivement en fonction des formations et l'arrivée de la voix, par exemple, le choix de la voix aussi présente, qui n'est pas juste sur un titre, mais sur
la moitié de l'album.
Voilà.
Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai une idée assez précise. J'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie de faire, mais pour être honnête, il y a toujours un work in progress. En travaillant, en façonnant, en arrangeant, évidemment le travail peut évoluer. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'écrire en fonction des musiciens avec qui je travaille, et donc on répète, on travaille, ça avance. C'est vrai que j'ai une idée vraiment précise de la photo, mais il y a des différences. Le point d'arrivée, en l'occurrence, c'était aussi le choix de Crystal Warren. Au début, j'avais en tête un côté un tout petit peu plus roots. Donc, je pensais à une chanteuse malienne. Sauf qu'à l'époque, les agendas ne concordaient pas, c'était impossible. Donc, j'ai rencontré Crystal Warren, une émission de Manu Katché sur One Shot Note. Et c'est vrai que ça a refaçonné, parce que je voyais comment elle chantait, et que même si elle a... il y a un côté très fragile dans sa manière de chanter, mais elle n'a pas ce son roots qu'ont les chanteuses africaines, proprement dit. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai déjà dû revoir ma copie, je dirais, et d'avoir une proportion plus grande de chansons un peu plus folk, pop, en tout cas dans l'harmonie. La base de l'album, c'était assez simple. J'avais vraiment envie que l'esprit de Trippin, du disque précédent, soit toujours présent. Donc pour moi, ça se résume assez facilement à un disque plutôt soul jazz, avec des influences, effectivement, comme vous l'avez dit, de gospel, de soul, de funk. Mais ça reste improvisé. Il y a énormément de langage jazz dans l'album. Donc ça, j'avais envie de garder ça. Parce qu'on joue énormément et qu'il travaille avec le trio, avec Franck Agulon et Thomas Bramery. Et quand même... je dirais pas en perpétuelle évolution, mais évolue pas mal, parce qu'on a beaucoup de concerts, et parfois on se concerte, il y a un feedback des concerts, et on essaye de modifier, de changer les choses pour que ça progresse et que ça change, d'avancer musicalement ensemble. Ça, c'est une chose. Donc ça reste vraiment soul jazz. Ensuite, je dirais qu'il y avait cette dimension africaine que j'avais vraiment envie de donner, d'où le nom, si le Afro Jazz Beat, d'avoir un pied dans l'Afrique que j'aime bien. Moi, ce que je connais un petit peu, c'est le Mali, Niger, évidemment la musique Afrobeat, mais spécialement les années 70, 10 de Tony Allen, que j'ai vu qu'on ressortait récemment, La Progrès, Jalousie, No Combination in Lagos. En tout cas, tous ces disques-là ont vraiment eu une influence sur l'écriture, plus encore ces disques, c'est rigolo, que les disques de Fela en eux-mêmes. J'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu plus instrumentale et que Fela, même s'il y a beaucoup de...
Oui, parce que peut-être Tony Allen, un batteur.
Voilà, c'est ça, exactement. Rythmique, donc, c'était vraiment d'incorporer ces éléments. Et encore une fois, dès qu'on parle d'afrobeat, ben, les gens s'attendent à avoir un disque d'afrobeat. Et c'était pas la vocation. J'avais envie d'incorporer des rythmes ou des idées de production qu'on retrouve dans les disques, des parties de cuivre. Et c'est vraiment une coloration, je dirais, de la musique qu'on fait avec des éléments pris de l'afrobeat, sans vouloir faire de l'afrobeat pur et dur, quoi. Donc il y a ça. Et puis, comme je disais juste avant, l'arrivée de Christelle Warren dans le groupe, dans le projet, a fait que la proportion, justement, pop-folk a augmenté. Parce que j'avais envie de faire des chansons. Mais bon, de la manière dont elle chante, la vibe qu'elle amène, etc. En tout cas, moi, me transporte directement dans la folk et ses codes. Le code de l'harmonie, rapport avec la mélodie, etc. Et donc, j'ai essayé d'utiliser cet élément-là un peu plus, vu que Christelle faisait partie intégrante du projet.
Vous avez déjà travaillé précédemment avec de nombreux chanteurs, avec des voix. Qu'est-ce que cette voix-là en particulier, celle de Christelle Warren, a comme impact sur votre piano, sur votre jeu en particulier?
C'est sa personnalité, en fait. La force de sa voix, c'est difficile à décrire avec des mots. C'est vrai que d'abord, c'est une voix qui me touche, simplement. J'aime écouter chanter et ça m'inspire. Ça m'inspire. Je sais pas, c'est un peu comme avoir une muse. Voilà. Dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'avais l'impression que ma musique prenait une autre dimension en tout cas, si je voulais chanter un jour, je pourrais rêver de chanter comme elle.
Le but, c'était de faire un duo, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire vous, votre voix à vous qui est le piano, plutôt que juste d'être un accompagnant, un accompagnateur.
Ça, c'est sûr. En tout cas, je perçois la musique et le piano comme une voix. C'est-à-dire que j'ai grandi là-dedans, je le dis souvent... ma mère était cantatrice, vit toujours, mais ne chante plus. Donc, beaucoup d'opéras. Donc, j'ai plutôt grandi avec Puccini à Donf, à la maison, beaucoup de Bach. Donc, j'ai une culture de la voix déjà classique que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le piano, est-ce que c'est cette culture un peu italienne, mais le piano est mélodique. C'est-à-dire, on dit le piano, c'est un instrument de percussion, tout à fait d'accord. Mais moi, je perçois plus la mélodie dans le jeu, et ça a toujours été, en tout cas, un élément important, je pense, dans ma musique. Donc quand j'ai rencontré Christelle, j'ai l'impression que j'avais enfin, en tout cas, un timbre de voix qui ressemblait à ce que j'avais envie de jouer au piano. C'est presque une matérialisation, je sais pas comment dire, de ce que j'ai dans la tête quand je joue, quoi. C'est des grains de voix. Moi, je parle souvent d'Hathaway, Donny Hathaway, Roberta Flack, Nina Simone. Quand on a commencé à échanger les influences, on écoutait quasiment les mêmes choses. Si ce n'est qu'elle, elle a vraiment une vraie culture, je dirais, pop-folk. Moi, je connais un peu dans les grandes lignes et encore. Par contre, dans la soul, c'est vrai que ça, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'aime et que j'écoute tous les jours, quoi. Donc je connais beaucoup mieux. Mais on a pas mal d'influences communes.
Comment vous avez fait à la fin, quand vous aviez toute cette matière? Vous avez dit, j'avais une idée de départ pour cet album, puis ensuite c'était un peu un work in progress, donc il y a des choses qui ont évolué.
Puis
j'imagine qu'à la fin, il faut un peu mettre tout ça en forme, doser tout ça. C'est peut-être parfois pas évident quand justement on se retrouve avec plus de matière, avec des formations différentes, avec des textures et des saveurs différentes, plutôt que quand c'est la même chose ou c'est un peu plus monolithique. Là, effectivement, est-ce qu'on veut raconter une histoire, ce qui est un peu le cas. C'est vrai que même si c'est assez différent, c'est un disque qu'on peut écouter, j'allais dire, avec un début, un milieu, une fin. Comment vous êtes... ça a été difficile, c'est venu facilement et naturellement ?
Ouais, non, c'est-à-dire que je travaille comme on travaille dans la chanson en général. J'ai maquetté les chansons, même les morceaux qu'on jouait instrumentalement étaient maquettés, de manière à ce qu'on puisse les travailler et les jouer en concert avant l'enregistrement. C'est vrai que je me suis retrouvé avec pas mal de matière, mais la direction était très claire, en tout cas sur les maquettes. Une fois que j'ai su qu'il y avait Christelle, ben j'ai travaillé sur les maquettes, comme on fait en pop ou en chanson en général. Et j'ai essayé déjà de donner les couleurs principales que j'avais envie d'entendre. Ensuite, Christelle a choisi les chansons qu'elle voulait chanter. Et une fois que j'avais ça, j'ai commencé à orchestrer, mais en ayant déjà la voix de Christelle et l'instrumentation qui convenait en tout cas aux chansons. Donc les choix étaient déjà, j'ai envie de dire que les choix étaient déjà pris à la base. Et une fois en studio, ayant un peu d'expérience, travaillant en studio, de prod, etc., j'ai poursuivi cette quête d'avoir. J'avais une idée quand même, comme je dis, une idée quand même assez précise de ce que je voulais. Donc j'essaye de faire des choix au fur et à mesure. C'est vrai qu'on se trouve avec. Bon, il y avait les cuivres. Il y a des choix de prise, etc. Donc c'est plus un travail d'écoute et de choisir quelle prise plutôt qu'une autre. Mais en studio, j'ai toujours essayé de faire les choix les bons choix. J'espère
bientôt l'album des mauvais choix.
Et là c'est le drame de faire les choix, en tout cas en studio. Je pense pas que c'est après qu'après, une fois qu'on est chez soi avec les bandes, qu'on façonne quoi que ce soit, on peut améliorer certaines choses, on peut donner des couleurs, mais la messe est dite en studio, même pour la prise, la couleur, les sons, les choix de production, etc. Tout se fait à l'instant, quand on est en studio et quand on est tous ensemble.
Thank you.
Justement, en termes de son, vous aviez des modèles, soit il y a des albums, des choses que vous vouliez approcher, effleurer, des directions dans lesquelles vous vouliez aller. Vous aviez
direction pour moi importante, c'est le son des disques de Al Green, par exemple, que j'adore.
Production de Willie Mitchell.
Voilà, Willie Mitchell, absolument. Je suis un fan aussi de Charles Stepney, qui a travaillé sur la liste de Minnie Riperton, Rotary Connection, ABC, Michael Jackson, enfin, Family, pardon, Jackson 5. Les Meters, je ne sais pas si j'ai dit Meters, voilà. Alain Toussaint, Zigaboo, modéliste. C'est vrai que toutes ces prods et ces sons, je dirais que c'est presque... mon environnement quotidien, c'est les sons que j'aime, et donc je suis pas un passéiste parce que je pense que ça sert à rien d'essayer de recréer et puis on n'y arrivera pas, les gens jouent différemment, il n'y a plus la même technique, tout a changé, mais c'est en tout cas j'ai ce son en tête, c'est mon carburant, c'est ce que j'aime écouter avant de rentrer en studio, et je pense que ça oriente des choix sur le moment, quoi.
Vous avez l'impression finalement que cet album, c'est celui peut-être qui vous ressemble le plus, d'une certaine manière ?
Ah,
Enfin, je dis pas que les autres...
Non, pas du tout. C'est une excellente... Si on est honnête, je pense que tous les musiciens diront que leur dernier disque leur ressemble le plus. J'ai un parcours que vous avez assez bien résumé. Je pense que le premier disque que j'ai fait, Miss Soul, était extrêmement classique. C'était le répertoire de Phineas Newborn. Il y avait déjà un peu des tournes, Boogaloo, etc. Mais je trouve que c'était plus discret. J'essaye d'affirmer, en tout cas, une direction qui peut paraître sortir du jazz pour ceux qui ne connaissent pas bien le jazz. Alors que je suis persuadé que même The Vox, qui est le moins jazz de tous, peut-être,
dans ce qu'on est dans, étiqueté.
Voilà, si on étiquette années 50, 60, etc. Mais c'est probablement le disque qui me ressemble le plus dans les choix aussi. Parce que je suis assez éclectique, et donc là, j'ai réussi, je pense, à incorporer et qu'on s'approprie, en tout cas, je veux dire, une musique qui est folk, avec du jazz, une influence africaine, pour ne pas rentrer dans l'afrobeat, mais je dirais une connotation plus générale avec les percussions. Là, il y a la guitare de Kiala Zavutunga qui était un compagnon de Fela Kuti. On a enregistré au Ghana avec un percussion. Donc c'était vraiment, j'avais envie que l'Afrique soit présente dans ce disque, et en même temps il y a des improvisations, il y a un côté je dirais plus musique européenne, plus mélodique, etc. Donc, il sort du jazz ternaire, comme, je veux dire, si on assimile à Charlie Parker, ou je sais pas, au Met. Il y a tout qui...
C'est de la schizophrénie, parfois. C'est-à-dire que, même si, évidemment, ce ne sont que des choix que vous assumez, qui sont les vôtres et qui vous ont construit musicalement, si on prend des deux extrémités de la ligne, je ne sais pas que ça soit des Meters, comme vous avez cité, ou de Phineas Newborn,
que ça cohabite, en fait. Pour moi, ce sont des musiques que j'aime, et que, puisque je les aime,
elles cohabitent en vous, donc il faut qu'elles cohabitent sur le disque.
Je les sens présentes, en tout cas, dans mes choix, et dans ce que j'ai envie de faire, en tout cas, j'ai envie d'avancer, ça c'est sûr. Mais j'ai envie que ces musiques soient présentes. Il y a toujours ce problème de patchwork, et se dire, ah ouais, mais bon, lui, pour qui il se prend, il met un petit peu... Voilà, ça, je dirais que c'est le risque que je prends, et
vous-même, quelle est la plus grosse difficulté, justement, à ça, d'arriver à ce que tout tienne, et que ça fasse pas, justement, patchwork, que ça soit honnête, et que ça fasse surtout une œuvre, quoi, que ça ait quelque chose de cohérent, que ça soit pas genre, bon, alors là, je vais mettre 10% d'afrobeat, là, je vais mettre 25%,
évidemment,
voilà,
c'est,
ou là, c'est...
Je l'entends, c'est-à-dire que je pense que l'instinct est assez important dans la musique, instinct et la culture, je trouve que c'est important de savoir ce qui s'est passé avant vous, d'avoir... en tout cas, moi, j'ai une certaine dévotion pour les années 70. Ça, c'est certain. Je trouve que dans ces années, il y avait un son, et que ce soit le jazz, la musique psyché, le soul, pop, le rock, la soul, le funk. C'est des années qui sont habitées, mais qui sont extrêmement créatrices et le son aussi est extrêmement fort, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus encore peut-être le style de musique, c'est le son en général de ces années, moi, qui me plaît énormément. Voilà, c'est des choix que je fais au moment, sur le moment. Bon, après, quand certaines personnes me disent « Ah oui, mais bon, tu mets Afrobeat, mais bon, c'est pas un disque d'Afrobeat. » Bah oui. J'ai jamais dit que j'avais envie d'inviter Sean Cutie et de faire un revival Afrobeat, quoi. Parfois, ce sont des doses homéopathiques, mais pour moi, elles sont importantes parce que ça change quand même, j'ai l'impression, radicalement le son de la musique. Le fait de mettre un élément de percussion africain avec une clé africaine donne une lecture, pour moi, différente de la même chose sans ça. C'est une connotation. Et je sais que quand on joue en studio avec une percussion particulière, on ne jouera pas pareil. Et donc, à partir d'une idée, pour moi, toute simple, fait que la musique s'oriente et part gentiment ailleurs. Et c'est des petits détails, mais je pense qu'ils font la richesse de la musique. Et j'ai voulu garder, en tout cas, le jazz est présent par, comment est-ce qu'on peut dire, la sophistication de l'harmonie. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans la musique africaine. La musique africaine, c'est une musique modale, il y a un accord, parfois deux, mais ça reste hyper simple. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'amener un peu cette transe qu'il y a dans la musique africaine ou dans l'afrobeat, mais d'avoir cette sophistication. Voilà. Et c'est très, très drôle parce que donc, j'ai évidemment fait des remixes de l'album. Par choix, je me suis dit, tiens, pour ceux qui étaient un peu amers ou se disaient, on s'attendait à avoir l'afrobeat, j'ai essayé de faire un remix, en tout cas celui de Black President, un peu plus dans cette tradition afrobeat. Et j'ai une carte blanche là au mois de novembre au Théâtre National en Belgique. J'ai invité Mamani Keita et Mayra Andrage. Mais je fais écouter les morceaux à Mamani, donc je lui fais écouter l'original. Et donc l'original, elle me dit « Ah !» elle me dit j'entends les sons de mon pays et effectivement il y a une connotation africaine, afrobeat dans la musique de l'original parce que je crois que c'est présent et elle ressent ça, ok. Bon, moi j'étais heureux, mais dès que j'ai fait écouter la version pour le coup
plus afrobeat,
vraiment afrobeat, là elle me dit ah ben non, mais là c'est plus là ça. C'est chez moi et je préfère chanter sur cette version là parce que c'est une musique. Oui, c'est ça. Il y a pas tous ces points qui font peut-être parce que je suis blanc et toujours à écouter beaucoup de musique classique, du jazz, d'avoir c'est peut-être ces questions. Et c'est un questionnement, je pense, en tant que musicien. Et donc peut-être ce besoin que j'ai de faire cohabiter plusieurs choses ensemble, alors que elle évolue dans un environnement musical très très clair. Donc, c'est intéressant aussi, hein, je serais curieux de discuter de ça avec elle, si elle le perçoit comme ça ou pas. Mais là, c'est l'instinct qui parle. Elle entend quelque chose et par instinct, elle entend tous les éléments qui lui sont familiers. Elle l'aime, elle me dit bon, bah, j'aime bien ça. Écoute, non, je préfère chanter sur la seconde. Voilà, je me demande, pour le coup, je trouve que le travail qu'on a fait sur la version originale est tout aussi intéressante. Je dirais même que c'est plus difficile à arriver à créer ça, parce que c'est une musique qui n'existe pas à la base. Je veux dire, ce mélange, tout ce que j'ai entendu en afrobeat restait vraiment à un accord modal avec un jeu plus simple, instrumental. Et c'est justement, je vais prendre commencer des images, c'était presque que des Headhunters d'Herbie Hancock rencontrent le groupe de Fela. C'est ces mariages-là que moi je cherche en tout cas.
Justement, est-ce que quand on convoque comme ça toutes ces influences, tout ce qui a bercé votre vie de manière non seulement revendiqué, mais pas du tout dissimulé ou quoi que ce soit. Là, depuis le début de la conversation, on a dû citer, vous avez dû citer 675 000 noms de groupes et de musiciens, allant de Al Green à Herbie Hancock, en passant par Phineas Newborn. Une fois que tout le monde est là, dans le studio, presque avec vous, Eric Lénini, est-ce que c'est un disque sur lequel il y a votre nom ?
C'est votre personnalité.
Est-ce que c'est quelque chose de facile à justement arriver à doser tout ça, à régler tout ça, et que au bout du compte, ça soit votre voix qu'on entend et pas juste quelque chose ? Est-ce que pour arriver justement à ce résultat final, vous, c'est facile, c'est une aisance que vous avez ? Ou au contraire, il y a un peu une sorte de combat par rapport. C'est un peu toujours l'éternelle question de couper le cordon avec ses influences, avec, etc. Est-ce que, comment vous arrivez à jouer des coudes et au final à arriver à quelque chose qui soit votre musique et pas juste une copie.
C'est délicat en tout cas pour dire, pour un artiste, vous dites voilà, c'est ma musique et voilà. Je me cacherai dans ma réponse derrière l'instinct. C'est-à-dire qu'instinctivement, j'entends les choses ou les choix que je dois faire et c'est souvent. Je dirais que c'est souvent mon cœur qui parle des choses que j'aime sur le moment en studio. Et je dis, ah, bim, c'est là qu'on doit aller, c'est ça qu'il faut faire, on va garder ça. Et je pense que c'est ces choix-là, et c'est l'instant qui forge le disque et qui forge, puisque tu en parles, la personnalité. Je veux dire, ma personnalité, elle est bercée autant de gospel que de... que de musique classique, que de Puccini, bon voilà, c'est ma vie. Donc, je veux dire, parfois c'est plus compliqué parce que quand on a depuis le début, j'ai eu la chance d'écouter de la musique, je dirais d'une qualité absolue. Forcément, on aime. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a influencé et j'ai beaucoup de difficultés à m'extirper de ces influences. Mais je pense qu'à l'instant, en tout cas, j'y pense plus. Je sais pas ce que je fais. C'est des idées mélodiques ou d'improvisation, etc. Ou de beats avec qu'on travaille avec Franck Agulon. Et ça vient comme ça vient. C'est vrai que là, c'est vraiment instinctif. Et j'ai l'impression que c'est les choix que j'ai fait tout au long de mon parcours, qui m'ont fait et qui font ma musique. Et peut-être que je pense que dans notre public qui nous suit. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles à la folk ou à la soul, qui n'aiment pas trop le jazz, mais qui viennent au jazz parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui leur parlent profondément. Et voilà, je veux dire, c'est sans vouloir plaire à tout le monde, évidemment, je ne veux pas rentrer là-dedans, quand il y a des influences, en tout cas non dissimulées, fortes, il y a forcément des gens qui se raccrochent à ça, qui aiment. Je parle de ça parce que je pense au concert, simplement. Je vois aussi le public qui était beaucoup plus jeune à la sortie de The Vox que quand on a commencé avec Miss Soul, avec une sortie dans les clubs. Bon, voilà, c'est un cheminement, je pense, aussi intéressant. En tout cas, c'est vrai que je pense à ça. Je pense au positionnement du jazz. Un disque qui m'a marqué, par exemple, c'est le disque de Miles Davis, Doo-Bop, qu'il a fait avec
à la fin de sa vie.
C'était son dernier. Disque qui n'était pas fini. Je ne me rappelle plus le producteur. C'est un producteur qui travaillait...
Hip-hop.
Un producteur de hip-hop qui était après avec R. Kelly, etc. Enfin bon, bref, qui faisait vraiment du hip-hop, quoi. J'oublie son nom. Mais c'est un disque que je trouve fabuleux, quoi. Pour moi, c'est un grand disque de Miles. Parce que certains vont dire qu'il y a un phénomène de mode, etc.
Qui a toujours eu chez Miles, en plus, même dans les grands disques. Hein, on le disait là, ça
qui
pour.
Qui a toujours eu chez Miles.
Beaches Brew, on disait aussi que.
C'est vrai. Voilà. Mais quand j'étais à New York, y avait des gamins de 16 ans qui écoutaient Miles, Doo-Bop. Les phrases qu'ils jouent, c'est Miles, c'est du jazz. Et c'est de nouveau cette cohabitation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que je trouve hyper important. Six, seven.
goes, let it so. Young Gutson can't go on. Daddy's girl on the stoop thinks she's looking cute. Children running, catching and chasing ice cream and summertime in the neighborhood. Such a joy to see my people live. Such a joy. Such a joy to see my people live. Such a joy. And can go. Daddy's girl on the stoop thinks she's looking too. Children running, cashing in, chasing ice cream, and it's summertime in the neighborhood. Such a joy to see my people live. Such a joy.
Justement, ce mot jazz, l'idiome jazz que vous avez cité, est-ce que malgré tout, dans tous les styles de musique dans lesquels vous nagez, vous avancez, vous respirez, qu'on vient de citer là, que ce soit de la soul, de la pop soul, de l'afrobeat, etc., est-ce que le jazz, ça reste quand même, j'imagine, et même le classique, parce que vous avez dit d'en écouter beaucoup, le jazz, ça reste un petit peu votre... c'est quoi? C'est un peu la cabane au fond du jardin où de temps en temps on vient pour se ressourcer, s'isoler en permanence, on a besoin? Ou non, pas spécialement plus qu'autre chose?
C'est intéressant. Je me dis souvent que je reste un musicien de jazz. C'est-à-dire que quand on me dit bah, tiens, qu'est-ce que tu fais? Ou
quelqu'un qui ne vous connaît pas.
Qui ne me connaît pas, qu'est-ce que tu joues? Je dis ah ben, je joue du jazz. Mais pour moi, le mot jazz, il a une connotation plus de liberté.
Oui, que la restriction, que l'étiquette.
Et d'improvisation, quoi. Pour moi, le jazz, c'est ça. C'est de se permettre d'évoluer dans une musique, de s'approprier cette musique et d'improviser avec. Parce que pour moi, dans le mot jazz, il y a le mot improvisation qui est capital. Je veux dire, c'est essayer de ne pas jouer deux fois la même phrase. C'est très, très difficile à accomplir. Mais c'est quand même, je dirais, un des credos du jazz. C'est l'improvisation, c'est de se renouveler, d'avancer, d'évoluer. Et quand on suit la carrière des maîtres, si on, je parlais de Miles, mais on pourrait parler de Coltrane, qui a aussi, je veux dire, un des principaux acteurs de cette musique, bah, ils ont connu une évolution monstrueuse. Mmh. Je veux dire, si on regarde Coltrane, comment il joue au début et ce qu'il joue à la fin,
oui, c'est juste des univers différents.
C'est hallucinant. Et je sens, en tout cas, je vois en ces gens une liberté incroyable. Et c'est le message que moi j'en retire. Et de dire que je suis un musicien de jazz, pour moi, il n'y a pas cette connotation années 50, bebop ou autre, le club de jazz en fumée. Non, c'est une vraie, j'ai une image extra large et ouverte du mot. Et donc, je ne me suis jamais enfermé dans une quelconque esthétique, etc. Et je pense que ça s'applique. À ma musique, j'ai envie de dire presque forcément, mais c'est cette ouverture aux autres musiques, en tout cas aux musiques que j'écoute, que j'aime et qui m'influencent, mais ça reste du jazz. Si je compare à des artistes pop, même si je joue un morceau qui a une connotation pop, je ne suis pas un artiste pop. Je vais jouer des harmonies différentes, je vais improviser, alors qu'un pianiste qui chante, qui fait de la pop, fera toujours la même harmonie qu'il a appris, et c'est comme ça. C'est comme s'il fige, comme en musique classique. Le jazz, c'est justement d'essayer de pas trop figer les choses.
De par votre culture musicale, tout ce que vous venez de dire, de décrire sur l'évolution des genres, l'évolution de certains musiciens. Là, j'ai l'air, c'est quand vous êtes à l'extérieur, mais aussi, vous êtes pianiste, vous faites des disques, donc vous êtes aussi dans le film vous-même. Mm-hmm. Comment on arrive à se resituer comme ça, à gérer l'héritage, et le présent, c'est-à-dire une musique qui est certes jeune, qui évolue, qui pour certains est une musique de répertoire, pour d'autres non, etc. Mm-hmm. Est-ce que vous arrivez à vous placer dans cette réflexion globale sur la musique que vous faites, ou votre réponse c'est The Vox, par exemple?
Non, je suis conscient de ça. Hein. Mmh. Je pense que c'est une avancée, c'est un parcours. C'est l'écoute aussi de tout ce que les autres font. Je veux dire, que ce soit dans d'autres styles musicaux, d'essayer d'avancer. Et quand j'ai fait The Vox, quand j'ai terminé l'album, ben, j'ai plus l'impression d'avoir... commencer un nouveau, je pense comme vous l'avez dit, de commencer quelque chose, une nouvelle ère, ou en tout cas une nouvelle direction pour le groupe. Et ça me met justement, j'aime bien cette notion de work in progress, ça me remet de nouveau dans une quête même pianistique. Si on parle de piano, c'est vrai que je suis ancré... en tout cas, je parle beaucoup de Finneas Newborn, mmh. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fasciné.
Et puis qui a un jeu vraiment à part, enfin qui est vraiment quelque chose de.
Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il réunit deux choses que j'aime beaucoup. C'est le son du gospel et un côté virtuose, une facilité de jeu. Enfin, virtuose, c'est plutôt la facilité d'exécution, je dirais. Et un jeu qui me plaît, puisque j'adore Arte Tum, Oscar Peterson. Donc, il y a quand même cette tradition de piano où il y a une jouerie, même si Thelonious Monk est extraordinaire, mais c'est pas le même... c'est pas le même jeu de piano, voilà. Et c'est vrai que, bon, est-ce que c'est le classique ou ces grands interprètes, ça m'a toujours séduit, en tout cas. Donc, Phineas, pour moi, réunissait un peu tous ces mondes. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment suivi sa musique. Mais par exemple, quelqu'un comme Brad Meldo, actuellement, est un pianiste qui me fascine. Parce que ça reste un pianiste de jazz, mais qui a des incursions aussi dans d'autres mondes. Et je pense que c'est un grand interprète. Donc, je dirais qu'il y aura toujours des influences d'autres pianistes qui me font avancer, qui me font travailler. En tout cas, autant du passé que du présent. J'essaye évidemment d'écouter d'autres pianistes et de voir, tiens, qu'est-ce qui... Hier soir, je suis allé écouter Robert Glasper, qui jouait en club au Sunside. Voilà, et bon, Robert Glasper, bah, c'est quand même... On est dans la même démarche, je pense. Sauf que c'est quelqu'un qui affiche vraiment son côté hip-hop, chose que je fais pas. Le hip-hop, je m'en sers dans des idées, comment gérer les batteries, les breakbeats, une culture hip-hop, ça, je pense qu'on la retrouve dans mes disques, mais je ne le joue pas au premier degré. Tandis, ce que lui fait vraiment, et c'est très intéressant, parce que c'est un mix de trio, je dirais, de jazz classique, avec tout d'un coup, je ne sais pas, le batteur qui se transforme en Dilla. Bon, ce n'était pas Chris Dave hier soir, mais Chris Dave est un bel exemple d'un musicien de jazz qui a vraiment très bien écouté la musique de certains producteurs comme Jay Dilla et cette manière de programmer.
Les beatmakers.
Les beatmakers. Il s'est approprié ça. Mais sauf que ce n'est pas une MPC, lui. Il a une batterie qui règle. Et c'est du jazz, quoi. C'est vraiment cette dimension... Que j'aime. Et pour reprendre le début de la question, c'est vraiment une quête. Ça avance tout le temps. Parfois, les rencontres ou ce que je vais écouter, j'ai découvert comment il s'appelle, Charles, j'ai oublié son nom, une nouvelle signature chez Daptone. Charles Bradley. Charles Bradley. Et Minhiran.
Minhiran Band.
Voilà, exactement. Donc, c'était cette équipe-là. C'est vrai que je dirais qu'il n'y a rien de nouveau.
Oui, ils jouent vachement sur le son revivaliste. Voilà, c'est mais ça. En même temps, ça ne sonne pas comme à l'époque.
Mais il y a quand même quelque chose de différent et qui me touche. Voilà. Ça. Donc, peut-être le fait d'écouter cette musique fera que le prochain de Vox. Aura peut-être un goût encore différent. Voilà, c'est vraiment... C'est de la nourriture. C'est vraiment... C'est de l'inspiration au quotidien et essayer de trouver sa place. C'est vrai que... je pense qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut un minimum d'ego, je dirais, dans la musique, sans se prendre trop au sérieux. Parce que quand on se prend trop au sérieux, j'ai l'impression que c'est le début de la fin et que ça ne fait plus rire personne. Mais il y a un minimum d'ego qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on représente forcément quelque chose et qu'on doit donner. Il faut chercher, il faut continuer, il faut défricher, je sais pas, il faut aller de l'avant. En tout cas.
Vous avez cité des noms, justement, là, de cette fois-ci, de musiciens contemporains, vraiment actuels. Est-ce que justement, c'est aussi des choses qui vous nourrissent autant que, j'allais dire, ceux du passé ? Est-ce que, quelles sont, par exemple, je ne sais pas, les dernières claques que vous avez prises, soit sur scène ou au disque, ou des choses qui vous font vous interroger sur ce que vous faites ? Peut-être d'ailleurs des choses qui ne sont pas obligatoirement du jazz ou de la soul ou du hip-hop, je ne sais pas.
Ouais. Vraiment, la dernière claque que j'ai prise, c'est quand j'ai vu le groupe de Wayne Shorter. Qui était dans un festival. Et il y a un côté organique dans cette musique, alors que c'est un vieux papy, hein, c'est quelqu'un, et qui joue,
qui est même encore plus moderne, même que d'autres.
Ouais, plus jeune que lui, il a une fraîcheur dans sa musique. Je dirais que c'est presque au-delà de style et de... Ouais, que ce soit du jazz ou autre, c'est la fraîcheur d'un artiste. C'est quelqu'un qui arrive à garder... cette énergie qu'on a quand on débarque, qu'on a 14-15 ans et qu'on joue, c'est une fraîcheur, quoi, une fraîcheur de jouer. Et dans le mot fraîcheur, il y a aussi le mot intelligence pour moi. Il y a une intelligence de jeu que je retrouve dans son groupe, parce que c'est vraiment un groupe, là. Je dirais, il y a des grandes personnalités, mais quand on écoute Wayne, on entend un groupe. C'est vraiment une force. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour Daniel Lanois. Je trouve que aussi dans la musique, il a ce côté organique, il a une fraîcheur.
Mais en termes de son, comme on parlait tout à l'heure, son, il a créé quelque chose.
Il a un truc énorme, quoi. Ouais.
Vous avez dit tout ça, c'est un work in progress. The Vox, ça m'a fait un peu passer dans une sorte de nouvelle ère. Vous avez déjà des idées précises en tête de
Absolument.
The Vox 2, le retour ouais, ou le retour, la suite, le retour de la vengeance.
Ouais, le retour. Oui, une suite, ça c'est sûr. Parce que, en tout cas, comme je l'ai dit au début, j'ai voulu faire The Vox et aussi créer le groupe Afro Jazz Beat pour vraiment assimiler. Une partie, en tout cas, ou une influence africaine. Et j'ai l'impression que dans The Vox, je suis allé avec parcimonie. Et c'est vrai que j'ai envie d'approfondir la question et de mettre cette influence de plus en plus, de la mettre en avant, en tout cas. Bon, pour ça, il faut pouvoir gérer. Et puis, c'est un trio. Dire, c'est aussi... Parce que le travail de Franck Agulon, il est incroyable. Parce que lui, il me suit dans tous mes délires, me dire, bon, ben, tiens, on va faire ça, etc. Mais lui, il assimile toujours une culture et qu'il arrive à la transcrire à la batterie. Et je pense que c'est un des acteurs qui fait que ça reste un groupe de jazz, parce qu'il jazzifie, en fait. Et c'est ce qui... C'est pas que ça dérange, mais parfois, les gens manquent de compréhension. Et que s'ils n'entendent pas une tourne, par exemple, pour revenir à l'afrobeat, pure et simple, pour eux, c'est pas de l'afrobeat. Mais juste, quand je parlais de Mamani Keita, elle l'entendait justement parce que c'est un niveau de conscience aussi, je pense. Elle entendait des éléments clairs alors que c'est un batteur de jazz et qu'il le joue comme du jazz. C'est ça qui est intéressant dans la perception de la musique. Il y a des gens qui, comme s'il y avait plusieurs couches, des gens entendent une première couche, puis des autres qui ont plus l'habitude d'une seconde, et j'ai envie de dire qu'ils sont d'instinct et qu'ils ne réfléchissent pas spécialement, ont cette dernière couche qu'ils perçoivent réellement. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment de lire dans la musique, c'est presque une connexion, je ne sais pas comment dire, c'est presque métaphysique, mais ça existe. Mmh. Je pense que c'est dans la musique. Donc, c'est vrai que j'ai envie de continuer cette voie, aussi, sans mauvais jeu de mots, avec la voix en elle-même, quoi. Parce que ça a ouvert une porte, je dirais, d'utiliser les codes de la voix ou de la folk ou de la pop et de mettre cette musique au service du jazz, au service de l'improvisation, d'avoir des choses qui changent. Parce qu'il y a dans la pop, il n'y a pas ce format-là, où c'est très très rare. Moi, j'ai eu la chance de participer à pas mal de concerts de Yael Naïm et David Donatien. Bon, c'est des amis, mais on a fait des rencontres. Et c'est très très riche de justement jouer avec faire de la musique avec quelqu'un qui chante admirablement bien et qui a quelque chose, et en même temps d'avoir cette liberté qui est propre au jazz. Et c'est assez rare, parce que pour avoir fait beaucoup de séances de studio et tourner avec des artistes, des chanteurs, je peux vous assurer que très souvent, donc, dès qu'on commence à changer deux accords et que c'est un petit peu que ça devient trop riche, ben, ils disent, ah mais non, c'est pas du jazz, hein. Il y a vraiment ce...
Vous faites référence à aux expériences que vous avez avec des grands noms de la chanson, ouais, que ce soit Nougaro, Reggie Ennio, Salvador, je sais pas. Quoique Nougaro, à la rigueur, peut-être non.
Claude, sûrement pas. mais d'autres, oui. Il y avait en tout cas cette filiation, cette couleur au jazz qui se dit, ah ben, l'harmonie est plus complexe, etc. Et c'est pas la chanson. Et il faut jouer.
Voilà,
la partie, écrit, là, c'est, voilà, écrit, c'est comme ça, et ce sera très... Donc, c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était un peu choquant, mais après, on s'habitue et on peut très bien... Les deux attitudes peuvent très bien cohabiter de nouveau, quoi. Donc, voilà. Mais, en tout cas, là, j'ai déjà de nouveaux morceaux. Cette carte blanche que j'ai en Belgique, là, au mois de novembre, avec Mamani et Mayra Andrage, c'est déjà un peu l'antichambre du prochain projet. On tourne avec Hugues Coltmann, c'est Hugues qui a pris la succession pour les concerts de Christelle Warren. Donc c'est déjà un nouveau team pour moi, et des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'espère partager une aventure de studio, etc. Quoi.
Bon, bah, bonne chance pour ce Vox deuxième partie. Donc, je rappelle que The Vox ressort ces jours-ci, début novembre, avec une petite poignée d'inédits. Merci Eric Lénini.
Merci à vous. Thank you.
Sunday, a letter never sent. A love once remembered, an idea of what a gloomy Monday is, and wonder of where the time all went. You wanted green, I wanted blue, blue and green, green and blue, but how they seem to be the same through rose-colored glasses, how they seem to lose their names through rose-colored glasses. Of a Sunday, a letter you never sent. A love once remembered, an idea of what a gloomy Monday is, and a wonder of where the time went. Wanted green, I wanted blue. Say you really when you look through rose-colored glasses, they become one in the same when looking through rose-colored glasses.
Rencontre Marxisman.